Bonjour à vous. Donc, démarrons tout de suite cette dernière ligne droite du banquet d'automne 2016 avec tout de suite donc, une conversation conçue et menée par des étudiants des masters, donc avec Laurent Mauvignier que vous avez pu entendre ce matin pour ceux qui étaient là, autour de son travail de la langue, ses livres. La conversation se terminera par une lecture de Laurent Mauvignier pendant 10 minutes d'un passage de Continuer, donc son dernier roman. Voilà.
Donc, bonjour à tous. Avant de commencer l'entretien, on voulait remercier aussi Victor Dozon, Louis-Alexandre Borel et Julien-Henri Lévy qui ont participé à la construction de l'entretien. Donc on va commencer. Et pour commencer, on voulait vous poser... un peu une fausse question que tout le monde vous a posée, mais est-ce que le Kirghizistan, c'était bien ?
C'est de mieux en mieux. Ouais, c'était bien. Non, mais c'est une fausse question, mais qui est une vraie question, en fait. Parce qu'il s'agit quand même... évidemment, j'arrête pas de répéter effectivement à tout le monde que je ne suis pas allé dans le Kirghizistan. Mais c'est une question qui me déroute toujours, hein, d'ailleurs, quand on me demande pourquoi faudrait-il aller dans un endroit, pourquoi faudrait-il avoir vécu... Je veux dire, la fiction, c'est précisément cette capacité mentale à se déplacer, soit... Mais exact, c'est vrai. Je suis très surpris qu'on s'étonne qu'un auteur fasse ça, alors que les lecteurs font ça tous les jours. En tant que lecteur, on fait ça tout le temps. On passe son temps à aller dans des endroits où on n'est pas forcément allé et à rencontrer. Je sais pas, quand on lit Balzac ou je sais pas quoi, on se pose pas la question de savoir si nous sommes allés au 19e siècle. Voilà. Pour moi, c'est du même ordre. Le déplacement, il est inhérent même à l'exercice de la littérature. Quel que soit l'endroit où de notre pratique, que ce soit en écrivant. Évidemment, quand on écrit un livre, on est en train de lire un livre qui n'est pas encore advenu. Mais c'est la même chose, c'est le même effort, peut-être pas au même degré d'intensité, mais c'est le même effort qu'on demande à un lecteur. Et très souvent, quand on me pose la question justement du Kirghizistan, à part quelques rares personnes, les gens qui me posent cette question-là n'y sont pas non plus allés. Et ils sont toujours dans ce truc de dire, mais quand même, on s'y croirait. Mais j'en sais rien, moi. Mais comme eux ne le savent pas. Et tant mieux. Tant mieux.
D'accord. Et en fait, la question qu'on se posait, c'était en fait cet inconnu, cet exotisme, c'est-à-dire la culture qu'on ne connaît pas, est-ce que, qui représente une certaine mise en danger, est-ce que ça peut créer un déclencheur justement pour l'imagination et pour l'écriture ? Est-ce que ça motive un élan d'écriture ou...
Bah, c'est toujours difficile de savoir ce qui déclenche un élan d'écriture. Parce que j'ai l'impression, pour moi, il y a quand même, par exemple, que ce soit quelque chose que je lis dans le journal, ou une histoire comme ça que j'entends, ou quelque chose. J'ai toujours l'impression que ce qui fait que quelque chose va devenir un livre ou un texte, c'est la façon dont quelque part ça se raccroche. Il y a un wagon quand même qui se raccroche à un autre wagon qui est un livre, un film, à quelque chose qui est déjà de l'ordre de la fiction pour moi, ou de l'écriture. Je peux prendre l'exemple de quand j'avais écrit ce que j'appelle Oubli, qui était basé qui était écrit à partir d'un fait divers, bien plus que dans le cas de Continuer. Ce fait divers, c'était passé en décembre. En décembre 2009, je l'avais entendu à la radio. Bon, ça m'avait choqué, mais j'ai envie de dire, comme tout le monde, voilà, vous entendez un type qui se fait tuer par des vigiles dans un supermarché, vous entendez ça, mais comme on peut entendre plein de faits divers comme ça. Mais ça n'a pas du tout été un déclencheur d'écriture, par exemple. Le déclencheur, c'est quand, quelques mois plus tard, merci Dominique, j'aime bien que les gens voient que je bois de l'eau aussi. quand quelques mois plus tard, je tombe sur une affiche dans la rue qui reparle de ce fait divers et qui en parle avec un ton qui me fait tout de suite penser à Thomas Bernhard. Le truc, c'était le procureur a dit que... Bon. Et ça, moi, j'ai pas du tout pensé aux faits divers. J'ai pensé à des arbres à abattre. J'ai pensé à un livre, j'ai pensé à un ton, j'ai pensé à un écrivain. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais dans ma poche la nuit juste avant les forêts de Coltès que je voulais offrir à quelqu'un. Et la connexion de Coltès dans la poche, de Thomas Bernhard comme ça, dont j'ai entendu l'écriture comme ça, plus ce fait divers, mais le fait divers en lui-même, pour moi, un fait divers ne déclenche jamais rien de plus que une vague intention comme ça, parce que des sujets de livres, il y en a tous les jours. Tout est sujet de livres, donc c'est pas important. Ce qui devient la naissance d'un livre, ça va être ces mini-rencontres, ces connexions entre plusieurs éléments qui, d'un seul coup, vont créer quelque chose et vont créer quelque chose à partir de quelque chose déjà de lu, d'une langue, voilà pour ce que j'appelle oubli, c'était ça. Pour continuer, c'est encore autre chose, mais c'est quand même lié à comment ça renvoie. Par exemple, le fait d'être allé ou pas au Kirghizistan, j'ai envie de dire, là où ça n'a aucune importance, c'est que la montagne, j'y suis déjà allé, j'ai lu Ramuse, j'ai lu La Grande Peur dans la Montagne, c'est bon, je sais quoi. Voilà, enfin, après, c'est évidemment pas du tout la même chose, de vivre ou pas les choses, mais cette géographie mentale que ça induit, pour moi, je peux la trouver dans des endroits. Il ne s'agit pas de se substituer au réel, pour moi. Il ne s'agit pas de remplacer le réel en disant je vais partir à cheval comme ça. Mais simplement, moi, il y a trois arts que j'aime absolument, qui sont fondamentaux dans ma vie. C'est évidemment la littérature, la peinture et le cinéma. Et par exemple, le cheval est omniprésent, et dans le cinéma, et dans la peinture, et dans la littérature. Donc ça, moi, ça me suffit. C'est ça qui déclenche quelque chose. C'est quand j'entends une histoire comme ça, mais je sais pas que c'est ça. Ça va prendre des semaines avant des images qui vont commencer à naître. Donc je vais commencer à les chercher. Et puis en fait, je le sais après, a posteriori, à force d'en parler comme ça. Voilà.
Alors justement, ça tombe bien que vous parliez de vos rapports aux images et de vos rapports à cette porosité en fait entre les médias qui peut exister, parce qu'on se posait la question, vous aviez fait les Beaux-Arts, et on se posait la question de la relation picturale qui peut exister, ou de la relation cinématographique qui peut aussi exister dans vos œuvres, notamment dans Continuer, qui a un rapport à l'espace qui fait énormément penser à des westerns, ou encore qui a un rapport au détail qui rappelle énormément la peinture impressionniste, qui fait vraiment très attention à un souci extrêmement pointilleux du détail. Et on se posait la question de comment vous arriviez comme ça à mixer en fait plusieurs influences, comment les différents langages plastiques peuvent s'influencer entre eux.
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit a posteriori, c'est des histoires qu'on se raconte, parce que par exemple, vous êtes en train de lire ou d'entendre Phèdre, Racine, comme ça, etc. Vous avez Théramène qui raconte la mort d'Hippolyte. Il raconte la mort d'Hippolyte. Le travelling, vous le voyez. Vraiment. Il y a un travelling, mais qui est magnifique. C'est un des plus beaux travelling d'histoire de la littérature. C'est Racine, et franchement. Moi, je crois qu'il y a des. Par exemple, on peut prendre un exemple plus récent. Dans les années 50. Tous les gens de la Beat Generation, Burroughs, etc., inventent avec le cut-up, ils inventent le copier-coller. Et je veux dire, c'est-à-dire que les techniques sont désirées quelques siècles avant ou quelques années avant qu'elles existent. Et pour moi, par exemple, le cinéma est une invention de la littérature, comme c'est aussi une invention de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a des arts qui s'appellent les uns les autres et qui n'attendent pas forcément d'exister pour ça. Je me souviens, par exemple, à la lecture d'un roman de Wilkie Collins, vous avez la jeune femme, comme ça, éclairée par le clair de lune, comme ça, et puis qui pousse un cri d'effroi. Vous voyez qu'il y a la description de la main qui est sur le front et tout ça, et vous voyez absolument une image de cinéma muet, expressionniste, alors que le cinéma n'est même pas encore inventé. Donc, on peut dire, oui, Wilkie Collins a influencé a influencé Fritz Lang, par exemple, sauf qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et ces rapports-là au temps et aux zones d'influence, par exemple, elles sont très complexes, parce que c'est pas toujours dans le sens, par exemple, c'est fou comment, par exemple, on dit toujours, alors on le dit encore plus avec Continuer peut-être pour moi, mais cette idée que parce qu'un roman est visuel, il serait cinématographique, alors que non, il y a des romans qui peuvent être très visuels et qui sont absolument inadaptables au cinéma. Le cinéma est un art spécifique. Le roman est un art spécifique avec des contraintes, des particularités qui rendent parfois la rencontre pas si évidente que ça. Alors on peut le croire parce que moi je sais que mes premiers livres, par exemple, il y avait beaucoup de gens de théâtre qui étaient intéressés parce qu'ils entendaient une profération, ils entendaient la voix, etc. Mais ça suffit pas. Il y a aussi une construction romanesque qui fait que à adapter au théâtre, eh ben c'était extrêmement difficile, voire pas possible. Et là, c'est pareil avec le cinéma. Je me souviens, il y avait un projet d'adaptation des hommes par Patrice Chéreau. Et il était malade déjà, mais donc c'était difficile. Mais on a beaucoup parlé de l'écriture du scénario. Il me disait, je vois bien comment on pourrait faire un téléfilm avec ça, mais pour faire quelque chose un peu plus exigeant sur un plan cinématographique, il y a des choses, on se dit oui, et puis il y a des passages entiers où en fait on s'aperçoit que c'est pas faisable. Parce que, on en parlait ce matin d'ailleurs, dans une seule phrase, même si vous avez une image à l'intérieur de cette phrase, elle peut être très nette, elle peut être très précise, mais vous avez en même temps la capacité d'englober 50 ans en arrière, hop, par le détour, et puis de revenir. Il y a une plasticité de la phrase qui rend l'adaptation cinématographique extrêmement difficile. Cette dimension-là, l'aspect visuel, n'est pas forcément compatible. Et même, par exemple, la comparaison avec l'impressionnisme, ça, c'est pas la première fois que j'entends l'impressionnisme, parce que j'ai tendance à marcher, à écrire comme ça, effectivement, par fragmentation et par détail. Mais sauf que l'impressionnisme, certes, c'est par fragmentation, mais en réalité, c'est jamais par détail, puisqu'il faut se dégager du tableau pour avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est, à la limite, ce serait même plutôt le contraire de ce point de vue-là. Mais ça donne cette impression-là, parce qu'aujourd'hui, la façon dont on relit l'impressionnisme, on le relit parce qu'on est aussi à l'ère du numérique. En fait, c'est plutôt, quand on dit impressionnisme, on pense pixelisation. Mais c'est-à-dire que l'ère de la pixelisation est en train d'influencer la vision qu'on a de l'impressionnisme, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un mode toujours linéaire des choses, parce que ça se regarde dans tous les sens. Il faut, et ça, ça m'intéresse, parce que ça, c'est ce que je vous raconte là, au fond, c'est vraiment mon travail qui est d'essayer de trouver tous les points de vue possibles, quoi. Et pour moi, le travail de l'écriture, il est quand même profondément lié à cette question du point de vue. Pourquoi je regarde ça à telle hauteur de vue, comme ça? Pourquoi je choisis quelque chose qui va être une focale un peu large? Pourquoi, au contraire, ça va être fixé sur quelque chose de très précis? Voilà, il y a cette... Ça, c'est évidemment le cinéma, par exemple. Le cinéma nous permet, ou la photographie l'a fait aussi, d'ailleurs, de se poser la question qu'on se posait peut-être moins avant en littérature, sur la question du comment on fait vivre un détail? Comment un détail peut devenir quelque chose qui s'habite complètement à un plan total, quoi. Et ça c'est extrêmement important. Et là où le cinéma influence la littérature, c'est pas sur l'aspect visuel. Pour moi, c'est sur l'aspect du montage, vraiment, sur comment le rythme. Alors, si continuer à est influencé par le cinéma et notamment le western, c'est dans cette question du montage, c'est dans cette question. Dans la relation peut-être entre le plan large et la question du huis clos et de l'intimité, de l'intimisme. Et voilà, en gros. On peut dire ça comme ça, je sais pas.
Et du coup, quelles sont vos références? De quoi vous êtes-vous nourri pour écrire Continuer et vos autres romans?
En référence, c'est un mot qui me fait toujours. J'ai l'impression de devoir présenter mon CV et tout ça. ouais, je dirais plutôt influence que référence, peut-être. Même parce que en fait cette question elle est c'est marrant comment les choses en écrivant se télescopent, c'est-à-dire qu'il y a parfois des choses dont on se rend pas bien compte en le faisant, c'est-à-dire que c'est parfois a posteriori que certaines images s'éclairent parce que on se dit ah mais oui mais ça en fait c'est quelque chose que j'ai lu quelque part ou que j'ai entendu quelque part je pourrais vous dire une liste d'écrivains, par exemple. Oui, je peux dire Claude Simon avec la description des chevaux. Ça, il y a ce court texte qui a été publié là il n'y a pas longtemps, Le Cheval, par exemple. Mais y a, dans la peinture, évidemment Géricault, évidemment les chevaux dans la guerre, par exemple, c'est une image qu'on a vue beaucoup. Au cinéma, ça va de John Ford à Bélatar, donc c'est quand même voilà, c'est impossible en fait de dresser même une liste de comment. Je pense que dès qu'on a on est capable de dire ça m'a influencé, ça m'a influencé, ça m'a influencé, ou ça me sert de référence, machin, c'est qu'on les a pas assez mangés, on les a pas assez ingérés, on les a pas assez. Pour moi, il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire ingérer des matériaux très différents et qui sont aussi vrais dans la vie. Moi, je sépare pas des personnages de fiction des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ou des personnes. Je suis certain qu'à la fin de ma vie, je ferai plus de différence entre certaines personnes que j'ai pu rencontrer, mettons dans le 6e arrondissement de Paris, et la Verdurin. Pas de différence. C'est les mêmes. C'est les mêmes à un tel degré que, je veux dire, parfois même, c'est comme d'aller ou pas dans les lieux. Pour moi, le problème, c'est pas le vécu. C'est-à-dire, c'est toujours le même truc. On parle toujours des histoires vraies. Mais une histoire vraie, c'est pas une histoire vécue. C'est une histoire qui touche à quelque chose de l'ordre de la vérité. Et alors, la vérité, c'est quoi? C'est ce mélange de choses qui nous ont touchés, qui nous ont rencontrés. Et il y a des films, il y a des livres, il y a des tableaux, il y a des gens. Il y a le réel, il y a notre histoire, il y a l'histoire des autres. Pour moi, tout ça, je suis incapable de cloisonner en disant même les choses que j'aime pas m'ont influencé. C'est-à-dire qu'il y a, j'adore de temps en temps regarder un très très mauvais livre ou lire un très mauvais livre parce que je suis surpris, je me dis ça c'est possible, enfin non, c'est pas possible, évidemment que c'est pas possible, mais la façon dont c'est pas possible, je le sais au moment où moi j'écris, où je suis dans l'écriture. Parfois il y a des choses qui viennent et vous savez que c'est pas possible. C'est-à-dire que les références ou les influences, elles marchent aussi comme ça. Je vais pas avoir la cruauté de dire tous les gens que j'aime pas parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont aussi importants pour moi que ceux que j'aime. C'est-à-dire que ceux que j'aime, ils existent parce que d'un seul coup il y a l'éblouissement de constater qu'on peut sortir de cette médiocrité. On ne peut pas parler des gens. Pour moi, on ne peut pas séparer. Dire, par exemple, il n'y aurait que les choses qui ont été importantes. Évidemment, je peux dire Coltès, je peux dire Thomas Bernhard, je peux dire Duras, je peux dire Claude. Mais je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, tout le monde a à peu près les mêmes, donc c'est pas grave. Et ça donne pas forcément les mêmes livres à la fin. Ce qui compte, c'est comment, dans la façon dont on peut convoquer. Les livres, les films qui ont été importants. Comment on peut reconnaître, par exemple, certaines choses? Comment chez. Je sais pas. Comment. Je sais pas comment des choses, y compris très quelconques, peuvent quand même convoquer parfois des choses qui m'intéressent, qui sont. Je sais pas, moi, quand je regarde des films avec mon fils, pourtant c'est des films d'enfants, il a 5 ans, des fois je me dis, ah ça c'est pas mal, ça dans le scénario, c'est pas mal, ça m'intéresse, je pourrais complètement me resservir de ça. Je vais pas vous dire que j'ai été influencé par L'Âge de glace quand même. mais en même temps, et pourquoi pas? Je veux dire, c'est pour ça, ces histoires de référence, pour moi, c'est très compliqué parce que je peux pas dire, parce que sinon, je peux vous dire, je peux prendre un ton un petit peu docte pour dire l'histoire de la littérature française et remonter comme ça jusqu'à Agrippa d'Aubigné. Je peux le faire, hein, parce qu'en même temps, Agrippa d'Aubigné, par exemple, ça a été pour moi, ça a énormément compté. Mais bon, quel intérêt de vous dire, j'ai aimé Céline, j'ai aimé Proust, j'ai envie de dire, on ne dit pas grand-chose quand on dit ça. Mais c'est une vraie question en même temps, je ne conteste pas la question, mais je sais que pour moi, dans la façon dont ça se, construit, il y a même un moment où je me pose la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, je me dis, mais ça revient un petit peu à l'histoire de la peinture, de l'influence de la peinture, du cinéma et tout ça, de comment ça se fabrique. Je me dis, est-ce que je suis, quand je commence à écrire, au tout début de mes livres, quand je découvre ou François Bon, par exemple, qui a quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, ou Thomas Bernard, quand il y a des connexions comme ça qui se font, est-ce que c'est eux qui m'influencent à tel point que mon écriture va aller vers ça, ou est-ce que l'écrivain que je ne suis pas encore, les livres que je n'ai pas encore écrits, mais qui sont peut-être déjà là, est-ce que ces livres que je vais écrire ne sont pas en train de se reconnaître à travers des gens qui, eux, ont écrit leurs livres? Je dis, est-ce que mes livres me disent, tiens, là, il y a quelque chose, on est là, on est presque là, on est dans ce coin-là, viens nous chercher, on est par là. Et moi, je me dis, ça, je sais, est-ce que c'est des phénomènes vraiment d'influence ou est-ce que ce sont des phénomènes de reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose de nous qui... Voilà, bon, mais c'est des questions, je n'ai pas de réponse à rien, donc j'ai juste cette question qui se pose de plus en plus pour moi, de comment la référence ou l'influence ou parfois peut-être l'identification peut-être à un auteur, mais parce que ça peut se jouer sur plein de registres. Il y a des écrivains, je pense, alors là pour le coup je pense à Claude Simon, pour moi est vraiment un écrivain qui peut servir presque de modèle dans sa façon de se tenir droit dans sa vie, dans son travail d'écriture. Ça par exemple, ça peut aussi, pour moi ça compte autant que presque que les livres. C'est-à-dire, ça se lit. Il n'y a pas de frontière comme ça aussi poreuse, aussi imperméable, pardon, entre l'influence des livres, l'influence des gens, l'influence de la vie, du vécu. Tout ça, pour moi, travaille dans les mêmes. Puis, vous savez, il y a aussi des choses, par exemple, je repense en disant ça à une image absurde. J'étais tout petit, c'est un des, peut-être le seul souvenir que j'ai d'un de mes grands-pères. Je le revois à côté de chez lui, en train de rouler sa cigarette. Et puis, il avait des moustaches, et je me souviens des petits morceaux de tabac dans les moustaches. Ben ça, par exemple, je sais que ça m'a influencé. Mais je sais, je dis ça comme ça, c'est complètement fou, celui-là. En quoi ça parle d'écriture, ça? Eh ben, ça parle d'un détail. Et à partir de, voilà, ma façon d'être fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je me dis après que quand je lis Proust des années plus tard, eh ben, la façon dont il capte un détail, j'y suis sensible parce que je sais que je fonctionne sur ce genre de choses-là. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'écrire pour que ce soit vrai. Je pense qu'un lecteur, il a aussi, dans ses références et dans ses influences, une façon d'être sensible à quelque chose dans un livre parce que ça le renvoie à une sensibilité qui lui est propre. Parce que ça compte autant. Pour moi, ça compte absolument autant. C'est difficile comme question, parce que ça ouvre énormément de choses, en fait. Alors qu'on pourrait avoir l'impression d'une question comme ça, qui demanderait simplement de répondre par une liste. Mais en fait, cette liste, elle est impossible parce que la vie n'est pas faite, et la littérature n'est surtout pas faite de frontières.
Alors, c'est pas vraiment une question, mais ce que vous avez dit sur le phénomène de reconnaissance, personnellement, ça m'a beaucoup fait penser à, je pense que c'est Derrida, mais j'en suis pas sûre, parce que j'ai un cours dessus qui dit qu'un auteur écrit avec les fantômes des auteurs passés et ceux des auteurs futurs. Et voilà, c'était juste.
Ah ouais, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais. Ça me paraît. Encore, il faudrait interroger cette question de fantôme, mais de se dire de quoi c'est fait tout ça. Mais en tout cas, cette idée de comment comment il y a quelque chose, tout se traverse Moi, j'ai une appréhension de ça, pas du tout. Je suis pas un intellectuel du tout. Moi, j'ai une appréhension très pragmatique et très sensible des choses. En fait, c'est par l'expérience de l'écriture que je peux en parler. C'est pas du tout quelque chose que j'aurais théorisé en amont. C'est bien pour ça que je suis incapable. Enfin, on en parlait ce matin, mais c'est bien pour ça que je suis incapable de parler de projet, parce que ça, c'est une idée, quelque chose qui me paraît beaucoup trop théorique par rapport à mon approche, en fait. Et là, ces fantômes, la façon dont tout ça circule, c'est vrai qu'il est important de dire qu'il y a aussi peut-être les fantômes à venir, parce que je crois que pendant des siècles, l'homme a eu envie de l'aviation, et pendant des siècles, l'homme a eu envie du monologue intérieur, pendant des siècles, l'homme a eu envie du cinéma et la littérature. Homer a cherché le cinéma. Pour moi, c'est évident. Dans le cas, par exemple, dans le cas des Grecs, je pourrais même soutenir, mais sans rigoler, je pourrais même soutenir que les Atrides, ils ont cherché les séries télé. Alors après, on peut dire que c'est les séries télé qui sont allées chercher chez Euripide, mais non, tout ça travaille. C'est impossible de dire. Et heureusement, c'est ça qui est beau d'ailleurs. C'est comment tout est habité par l'ensemble. Et c'est ce que j'aime, par exemple, au théâtre. Vous savez, au théâtre, quelqu'un arrive, va nous dire, par exemple, restons sur Phèdre. Hop, commence Phèdre. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que non seulement on entend une voix qui arrive avec un texte qui a déjà traversé quelques siècles, mais on a toutes ces actrices qui ont été ce rôle-là, elles sont là à ce moment-là. Et tous les spectateurs qui ont vu ce spectacle, ils sont là aussi. Et puis tous ceux qui le verront sont aussi là. Et moi, je trouve, enfin, moi c'est ça que j'aime aussi dans le roman, dans le travail de déploiement du roman, dans le travail de cette fragilité d'accueil que ça demande. Donc ouais, ces fantômes-là, ils sont, ouais, en accueil quelque part là, ouais.
On a parlé tout à l'heure de l'influence de l'image. J'aimerais moi vous parler du silence et du langage. Il me semble que dans votre œuvre, il y a une utilisation très forte, si j'ose dire, du silence. Est-ce que le langage qui, par définition, s'oppose au silence, peut aussi parfois le traduire ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe un langage du silence ?
Alors, je ne pense pas que le langage s'oppose au silence. Je pense que la communication s'oppose au silence. La communication, j'allais dire, c'est la peste. Le langage, c'est l'antipoison, hein. Mais non, la communication, c'est la peste, oui, c'est vrai. Parce que justement, ça s'oppose au silence. Et le silence, alors évidemment, il y a plein de types de silence. Il y a ce silence, pour moi, qui s'agit paradoxalement, de faire entendre, c'est-à-dire une vibration particulière. Une vibration particulière de sous-conversation. De conversations qui passent par les gestes, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le silence, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est encore une façon d'explorer le langage dans ce qui ne passe pas toujours par la parole, par les mots, mais par les gestes. Comment vous savez, par exemple, je prends toujours le même exemple, si on prend Homer par exemple, quand il dit pour dire que Hélène est la plus belle femme du monde et que c'est voilà, il dit pas qu'elle est belle, il le dit pas comme ça, il dit quand elle arrive quelque part, tous les hommes se lèvent. Et Coltès a cette petite phrase qui est très jolie aussi, de dire que il ne dit pas que son personnage est triste, il dit qu'il va faire un tour. Et voilà, pour moi, c'est toujours essayer de cette question de, parce que le problème du langage avec ce rapport comme ça au silence, à cette vibration, pour moi c'est plus une question de vibration que de silence, parce que le silence, c'est, je trouve, c'est un mot comment dire, en fait le problème que j'ai, c'est que on a trop les mots. Moi, ça m'écorche. Il y a des mots qui m'écorchent. Le silence, il est trop fort comme mot. C'est trop bruyant comme mot, je trouve. Vibration, j'ai l'impression que c'est un petit ton en dessous. Alors, à chaque fois, j'essaie de trouver j'entends souvent les écrivains parler de la recherche du mot juste. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de mot juste. Il n'y a qu'un ensemble de mots qui seront moins pires que les autres pour dire quelque chose, pour tourner autour de quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on... Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que j'essaie de dire quelque chose ou de le montrer, je m'entends le dire, ou c'est trop violent ou c'est trop criard. Il y a quelque chose de criard dans les mots. Il y a quelque chose de ils essaient d'imposer quelque chose, ils essaient d'imposer une présence. Par exemple, le mot silence, si on prend celui-ci. C'est comme le mot hôpital ou comme le mot docteur par exemple ou tous ces trucs là ça va pas. Qu'est-ce qui peut rendre compte de ça? Un hôpital, il suffit pas de dire, on en parlait ce matin avec le métro, tout ça, pour moi c'est la même chose. C'est pas seulement une paresse de la part des écrivains de dire le mot juste, parce que le mot juste c'est le mot de la communication. Bon, très bien, mais on peut le dire, ouais, c'est bon pour un tweet, ça, mais c'est pas bon pour ce qui nous concerne. Pour ce qui nous concerne, c'est de dire, qu'est-ce que c'est quand vous allez voir quelqu'un à l'hôpital? Vous dites, je suis allé voir machin à l'hôpital. Mais c'est une façon de pas dire ce que vous avez vécu en y allant. C'est pas ça que vous avez fait. Quand vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, vous entrez dans un lieu qui vous transperce de toutes parts. Vous entrez dans des odeurs. Vous entrez dans des sensations, vous entrez dans des regards, dans des non-regards, vous entrez dans des bruits très particuliers. Vous êtes en contact avec une expérience de vie qui n'a rien à voir avec le mot hôpital. Le mot hôpital, je suis allé à l'hôpital voir quelqu'un, ou alors j'ai passé 15 jours à l'hôpital. Ben, c'est pas du tout la même chose. Passer 15 jours à l'hôpital ou aller voir quelqu'un à l'hôpital, ou parler du mot hôpital. Non, c'est les expériences qui sont derrière. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est même pas que ça m'intéresse, c'est que ça me désespère de pas savoir dire ça. Peut-être parce que dans mon enfance, je prends le mot hôpital peut-être pas par hasard, parce que j'ai eu des expériences de ça. Et je sais pas, quand vous êtes 15 jours cloué dans un lit, vous regardez le mur blanc en face, je vous assure que le mot hôpital, c'est rien. Ce n'est rien. Et le mur blanc... Le mot mur blanc, c'est rien. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez là avec votre texte, avec vos petites mains, là, votre crayon, et vous allez dire alors, j'étais à l'hôpital, nanana, et puis alors, il s'est passé ça. C'est-à-dire, il s'est rien passé, mais il s'est rien passé. C'était bouleversant, comment c'était rien. Mais même dire ah merde, le mot bouleversant, c'est pas ça. C'est pas ça qui traduit ce que j'ai vécu. L'effondrement intérieur, qu'est-ce que c'est? Je sais pas le dire, personne ne sait le dire. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut le dire. C'est parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Moi, il me reste des virgules et il me reste trois pauvres mots qui disent « on ne peut pas, on ne sait pas, comment on ne peut pas, comment on ne sait pas ». Alors, comment on va faire? Le mur, il est blanc, oui, mais il est blanc comme ça. Puis à telle heure, il y a une lumière qui vient dessus, mais elle vient à tel endroit. Et puis par la fenêtre, à cet moment-là, il se passe ça. Et puis ça, il se passe ça. Puis ça, c'est le matin à 8h. Et puis à 6h, il se passe ça. Et puis à 10h, il se passe ça. Et puis tac. Puis en même temps, j'entends le bruit, comme ça, j'entends le bruit des gens qui passent dans le couloir. Et puis j'entends, je sens l'odeur d'une espèce de ragoût dégueulasse des hôpitaux quand ils passent à 18h, quelque chose. C'est ça. Et quand vous faites l'effort d'immersion, que vous ayez vécu la chose ou pas, ça n'a aucune importance. La question, c'est de la vivre pleinement, mais de l'intérieur, la façon dont vous l'intériorisez. Moi, à chaque fois, j'ai écrit beaucoup de livres où il se passait des catastrophes que je n'avais absolument pas vécues. Mais je ne sais pas si vous êtes un peu... Il y a des moments où vous pouvez vous mettre en situation d'accueillir des expériences que vous ne connaissez pas à partir du moment où vous êtes capable de vous mettre un petit peu, je dirais pas en danger, parce que c'est des grands mots ça encore, mais dans une situation de trouble suffisamment fort, suffisamment aigu pour que vous puissiez recevoir l'impression d'une chose.
mais comme le lecteur va la recevoir. Il n'y a pas besoin d'être allé, d'avoir vécu le drame du Hesel pour lire dans la foule, où il n'y a pas besoin de... Heureusement, sinon on pourrait plus lire aucun livre, on pourrait plus regarder aucun film. C'est pour ça cette question, par exemple, de savoir quelle relation on peut avoir avec les personnages ou les... Au moment où j'écrivais Autour du monde, par exemple, je me souviens, j'avais regardé ce film de Ozu qui s'appelle Voyage à Tokyo, où on a deux vieillards, deux japonais qui vont à Tokyo et pour voir leurs enfants, qui sont adultes, ils ont toute une vie, etc. Et pendant 3 heures, vous êtes en empathie avec ces deux vieux, mais bon, et pourtant, on a absolument rien en commun, rien. Voilà, on n'est pas japonais, on n'est pas un vieux couple comme ça, machin. Et pourtant, on est complètement avec eux. Et c'est possible, c'est complètement possible. Donc il y a cette question de l'empathie, mais une fois encore, le mot empathie, c'est comme le mot silence. Je trouve que c'est des mots verrouillés, c'est des mots. J'ai l'impression de voir la couche de ciment au-dessus qui les enferme, en fait. C'est empathie, mais c'est plus fragile que ça aussi. Voilà. Je suis parti complètement ailleurs, là, pardon.
Du coup, vous parliez d'empathie. Ouais. Et bon, je vais réutiliser ce mot, même s'il ne vous plaît pas trop. Non, mais...
En même temps, là, on est en train de... Voilà, là, par exemple, on a une expérience du langage. Moi, je sais que quand je fais beaucoup ça, par exemple, des rencontres comme ça, je sais qu'après, il y a le petit écrivain qui est en moi, qui est derrière mon épaule, qui me dit, c'est pas bien, tu as fait beaucoup de communication, c'est pas bien. Il faut avoir un vrai rapport au langage. Mais là, par exemple, on n'a pas d'autre mot que le mot empathie pour là, maintenant, tout de suite, quand on est en train de parler comme on le fait. Donc oui, empathie, allons-y.
Donc c'est une analyse qu'a fait Morgan Kiefer dans un colloque sur vous. Donc elle a dit que dans vos premiers livres, vous étiez plutôt en empathie avec vos personnages, donc dedans, mais que dans vos derniers livres, vous étiez plutôt dans la compassion, donc plutôt à côté, vous surplombiez vos personnages. Donc c'est quelque chose qui s'amorcerait dans Des Hommes et qui se confirmerait dans Autour du monde, puis dans Continuer. Et donc c'est pour avoir votre avis sur cette analyse.
Je sais pas. Non, je peux comprendre ce qui peut faire dire ça, simplement parce qu'on passe du... Je sais pas si c'est parce qu'on passerait du monologue à la troisième personne comme ça, mais moi je le ressens absolument pas du tout comme ça. Franchement, moi j'ai l'impression de... Parce que... Comment dire ça? Mais peut-être que c'est vrai, je sais pas. Non, après, je sais pas si un auteur est forcément le mieux placé pour parler de ça, d'une certaine manière.
Du coup, c'est pas du tout voulu, quoi. C'était la question.
Non, parce que quand je suis en train d'écrire, j'ai d'autres problèmes que ça. J'ai des vraies questions à régler, quoi. C'est comment je... Mais que ce soit du premier au dernier livre, moi, je suis désolé, mais je veux dire, c'est des questions qui peuvent arriver après, bien sûr, mais au moment où j'écris, moi, ma question, c'est comment j'essaie j'ai l'impression de tenir sur un fil très au-dessus du sol et qu'il faut que j'aille au bout. Il faut que quelque chose, que cette traversée soit entière. Donc, je n'ai pas du tout la sensation de... d'être moins avec les personnages, par exemple, pas du tout. Sibyl, pour le dernier, par exemple, pour moi, est l'un des personnages avec lequel j'ai vécu le plus intensément, par exemple. Donc, moi, l'empathie avec Sibyl, je la ressens profondément, même si peut-être que évidemment, le mode de narration étant différent, oui, peut-être qu'on peut dire ça, j'en sais rien, mais c'est beaucoup trop théorique pour moi, ça. Je ne sais pas... Non, surtout que je vous dis, moi, j'ai des problèmes concrets, c'est-à-dire comment je fais avancer un récit, comment je termine une scène, comment je suis dans une situation où je ne peux pas m'en sortir. Je pourrais pas mettre, par exemple, Continuer autour du monde, c'est un petit peu différent en même temps, donc... Chaque livre a par exemple, Autour du monde, c'est un livre, je ne sais même pas si je peux dire ça, parce que Autour du monde est un livre où la question du rapport au nihilisme contemporain était quelque chose qui existait beaucoup. Alors c'est peut-être le seul livre où j'ai fait ça. Donc oui, la compassion, mais c'est en même temps, c'est drôle parce que ça, c'est un petit peu les regards universitaires qui se font toujours un peu a posteriori des choses. C'est-à-dire que, à la fois, c'est peut-être vrai, mais si moi je me remets à l'époque de ce qu'on disait dans mes, par exemple, pour mes premiers livres, pour Loin d'eux et Apprendre à finir. Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur le côté compassionnel? J'avais l'impression d'être en face, en fait, de l'autre côté du mur, là, vous voyez, chez les voisins. C'est marrant comment ça se transforme tout le temps, en fait. C'est-à-dire que non seulement l'écriture se transforme, mais les discours sur l'écriture et sur les livres se transforment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit mes premiers livres comme des récits pleins d'empathie, et ceux d'aujourd'hui seraient à la fois plus compassionnel et en même parce que plus distancé d'une certaine manière. Mais c'est drôle parce que moi je me rappelle très bien de ce qu'on disait il y a 15 ans sur mes livres, et y compris de la part de ceux qui ne les aimaient pas, c'est que c'était compassionnel, etc. C'est-à-dire que ça m'amuse comment les discours se transforment. Je rentends, même sans aller si loin, j'entends comment il y a 2 ans, pour Autour du Monde, certains pouvaient être extrêmement violent, pas publiquement, pas forcément publiquement, mais autour de ce livre, et comment aujourd'hui, les mêmes m'expliquent comment c'est très bien. Donc après, je me dis c'est bon. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas d'ailleurs une critique que je fais de personne en disant ça, parce que là, je pourrais avoir l'impression de donner l'impression de ou de me moquer d'eux mais c'est pas du tout ça. C'est que les livres sont des objets vivants et la réception, elle est aussi vivante, c'est-à-dire elle se transforme dans le temps. Elle n'est pas si stable que ça. Et d'ailleurs, ça se voit, on voit très bien à l'échelle de l'histoire littéraire, comment certains grands écrivains d'une époque disparaissent complètement, reviennent quelques années après, comment des livres qui nous paraissaient géniaux deviennent médiocres 50 ans plus tard, comment des livres qui paraissaient médiocres deviennent... C'est-à-dire, c'est aussi des choses qui se transforment tout le temps. Ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, la notion empathie-compassion, elle est suffisamment complexe et faite de variations, une fois encore, pour qu'on n'aille pas trop trop vite sur ce genre de remarques qui sont peut-être après très justes, très bien. Intellectuellement, ça se tient complètement. Je peux comprendre tout à fait qu'on dise ça. Mais moi, c'est vrai que pour moi, je ne ressens pas ça comme ça. Mais après, je ne ressens pas ça comme ça parce que je vous dis, moi, les mots comme ça qui arrivent avec la garde rapprochée autour, pour moi, c'est des mots un peu d'inquisiteur, tout ça. Parce que pour moi, ça ne se pose pas comme ça. Voilà, c'est des mots verrouillés, tout ça.
Vous parliez un peu des critiques qu'il y avait eues sur vos anciennes œuvres et tout ça. Donc, j'ai bien conscience que vous ne l'avez pas en tête quand vous l'écrivez, mais j'aimerais savoir un peu le regard que vous avez sur vos anciennes œuvres, parce qu'il y a une résonance, je pense bien qu'elle n'est pas voulue, entre apprendre à finir et continuer. Vous êtes passé du monologue intérieur à quelque chose, à une troisième personne, d'une narration un peu circulaire à une narration qui va plus directe. Ouais. Et donc on peut vous lire presque apprendre à finir comme un anti-continuer et continuer comme un anti-apprendre à finir presque. Donc je voulais savoir en fait quel regard vous avez sur les œuvres qui vous ont amené jusqu'à continuer.
Ben en fait, je crois pas que apprendre à finir soit un anti-continuer et réciproquement. Je crois que c'est des livres qui se répondent, ça c'est sûr. Mais si on regarde bien Apprendre à finir, c'est un livre qui en fait va vraiment dans une direction. Et cette direction, alors certes, on peut se dire ça se termine par l'acceptation d'une séparation. Et Apprendre à finir, c'est pas non seulement c'était pas négatif pour moi, mais ce livre est d'une certaine manière presque plus positif que continuer, dans le sens où ce qu'apprend cette femme, c'est que non seulement une séparation ce n'est pas la mort, mais que parfois c'est aussi l'instrument d'une émancipation, et que cette femme dans le contexte de ce livre d'apprendre à finir, c'est une femme, voilà, une femme de la campagne, femme de ménage, et qui a vécu avec des à des modèles, des stéréotypes sociaux. Vous savez, quand on entend des gens disent « Ah, j'ai trouvé la bonne personne », ah, formidable. Et donc, bon, c'est bien. Mais du coup, ça, ils vivent avec ce modèle-là. Et puis, sauf que ça ne marche pas forcément toute la vie. Et là, l'histoire de cette femme, c'est quelqu'un qui doit apprendre à déconstruire les discours un peu comme ça, normatifs. Et donc, apprendre à finir de ce point de vue-là était comment on redevient ou comment on devient... comment on se débarrasse des carcans, comment on apprend à finir avec ces choses enfermantes, ces stéréotypes et tout ça. Et au fond, continuer, Sybille ne cherche pas quelque chose de différent, sauf qu'elle n'est pas tout à fait de la même génération de la femme d'apprendre à finir. Et donc, elle, il s'agit de continuer, c'est-à-dire qu'il s'agit plutôt de continuer avec quelque chose que, elle, cette question de l'émancipation, elle est née avec. Elle a vécu sa jeunesse avec, elle l'a perdue en cours de route, et donc pour elle, il s'agit de renouer avec quelque chose d'elle-même, mais donc de continuer, et de ce point de vue-là, pour moi, les deux livres ne sont pas du tout opposés. Profondément, ils disent la même chose. Mais bon, de toute façon, il y a deux solutions avec les livres, de toute façon, soit ils disent la même chose, soit c'était mieux avant, donc, bon, comme disait l'autre. Mais c'est vrai qu'après, formellement, il pose pas les mêmes questions formellement. Ça, par contre, c'est certain.
Et le regard que vous avez sur la progression entre suivant les œuvres, parce qu'on sent qu'il y a un détachement du monologue intérieur à partir de Des Hommes. Et quel regard vous pensez, enfin, l'écriture est une machine qui se construit petit à petit au fur et à mesure des œuvres. Et quel regard vous avez sur ça? Vous avez conscience de ça ou...
Ah oui, bien sûr, oui. Puis non, parce qu'entre-temps, il y a eu le théâtre qui est apparu. Et j'avais l'impression... Non, il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, il y a eu le théâtre qui m'a permis peut-être de poser la question de l'incarnation autrement. Il y avait cette question de l'incarnation, cette question de comment... Pour moi, par exemple, l'incarnation, c'est plus juste que l'empathie. Parce qu'en fait, l'empathie, la compassion, franchement, je m'en fous, en fait. Non, mais je m'en fous parce que je ne me pose pas les questions comme ça. Je trouve que c'est des questions qui sont trop extérieures à l'écriture. Ce sont des questions que j'ai l'impression que c'est... qu'on regarde trop de loin. Alors, je ne connais pas la personne qui a écrit l'article. Je vois très bien ce raisonnement. Et il est tout à fait louable. Hein. C'est une fois encore, c'est pas dans le sens d'une critique que je dis ça. Simplement, je dis comment moi je reçois, comment je perçois les choses au moment où je les éprouve. Et pour moi, la question, c'était plutôt la question de l'incarnation, la façon dont une écriture est... me regarde au moment où je suis en train de l'écrire, c'est-à-dire où simplement j'ai l'impression que cette personne me parle, que je suis concerné par ce qui se passe, je me sens concerné par ce qui se passe, je me sens intimement ébranlé par ce qui se passe. Et je peux vous dire pour moi qu'il n'y a aucune différence entre Loin d'eux, Apprendre à finir ou Continuer sur ces questions-là, parce que simplement je vois comment il y a des textes qui me détruisent vraiment, qui touchent à un endroit. Et je sais très bien qu'il y a des livres qu'on les écrit pour une page, pour deux pages, pour une ligne, pour un mot. Mais celui-là, il faut passer par tout un livre. Et puis vous arrivez à ce mot, vous arrivez à cette page, et vous êtes mais vraiment détruit. Vous ne pouvez plus rien faire après. Vous êtes la journée comme ça, et vous avez touché un de vos nerfs intimes. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est avant de faire le livre. Donc moi, c'est vrai que cette question... empathie, compassion, je m'en fous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est quand parfois il se passe quelque chose dans une rencontre avec un personnage, mais aussi avec une phrase, aussi avec un mot, avec une situation, avec un moment qui retourne quelque chose en moi au moment de l'écriture. Je reste sans voix pendant deux jours parce que cet endroit-là me traverse complètement. Et je sais que tout le livre, il a été nécessaire pour arriver à ce moment-là, que ça ne peut pas voilà. Et il y a des livres qui sont très différents sur ça. C'est vrai qu'Autour du monde, évidemment, ça ne s'est pas du tout posé en ces termes-là, dans cette approche-là. C'était quelque chose, un travail plus, peut-être plus à distance, qui travaillent sur d'autres registres, l'ironie, le nihilisme, cette question sur le rapport au monde contemporain et tout ça. Mais quand je, par exemple, hier soir, en entendant les lectures, c'est vrai qu'après, on me demandait ce que j'en pensais. C'est très difficile, en fait, de dire ce qu'on en pense, parce que, en fait, j'allais dire, j'en pense rien. C'est pas une question de pensée. C'est d'un seul coup. J'avais l'impression hier soir, l'impression d'entendre. D'entendre mes vieilles voix, mais. J'allais dire mes vieux morts, quoi. C'est un peu ça. Non, c'est très. C'est très difficile de parler des vieux livres. Parce qu'ils ne seront jamais vieux, en fait. En tout cas, pour moi, après, pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, ils ne seront jamais vieux, c'est sûr. Mais en même temps, c'est comme les vieux parents, hein, faut pas se laisser manger par eux, hein, jamais. Non, mais c'est du même ordre. Pour moi, c'est du même ordre. C'est comme la famille. C'est très bien la famille, mais faut pas se laisser bouffer par ça. Faut pas se laisser bouffer par les gens qu'on aime, jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, mes vieux livres, je les aime. Je les ai en moi, je les porte. Ils me portent aussi. Je leur dois énormément. Mais c'est pas eux qui me diront ce que je vais écrire aujourd'hui, jamais. Et pourtant, le dialogue avec eux, il existe tout le temps. Mais parce que parfois, vous entendez des gens qui vous expliquent votre travail en vous disant « Ah oui, le rapport au monologue intérieur, le rapport à ceci. » Je dis pas que c'est faux tout ça, mais ils me parlent de quelque chose qui n'est pas ce que je vis. Moi, je vis au présent, et ce présent-là, il n'appartient qu'à moi, et qu'au hasard de mes rencontres, qu'au hasard de tout ce qui peut se porter comme ça dans la vie. Il y a quelques mois, on parlait avec une femme écrivaine, je sais pas comment on dit, écrivaine, j'aime pas trop comme mot, je trouve ça pas beau. Enfin, écrivain non plus, c'est pas beau, vous allez me dire. Qui s'appelle Gwenaëlle Aubry. Je sais pas si elle est déjà venue ici, Gwenaëlle, qui est quelqu'un de très très bien. Et on parlait de son dernier livre, on parlait du fait que chaque auteur a sans doute son petit personnage ou sa légende mythologique quelque part en lui. Et c'est vrai, j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis quelques mois. Je me dis, tiens, la figure peut-être qui me touche le plus, moi, au fond, c'est peut-être Cassandre. Parce que j'ai l'impression qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui passe son temps... À savoir ou à voir ce qu'il ne devrait pas voir, à être une espèce peut-être d'oiseau de malheur, et qu'évidemment, du coup, les gens ne veulent pas croire. Et c'est parce que les gens ne veulent pas croire qu'il faut continuer à dire des choses, à essayer d'avancer comme ça. Et donc, évidemment, il y a tous ces livres qu'on porte, qu'on a. Mais ceux que j'ai écrits, c'est bien, mais ceux qui m'inquiètent, c'est ceux qui sont à venir, c'est pas ceux que j'ai écrits, en fait. Et le problème, c'est que quand on a déjà pas mal de livres écrits, j'ai l'impression que l'espace pour écrire les prochains, l'espace se réduit, mais en fait, au fond... parce qu'on vous dit, ah oui, mais ça, c'est quand même pas cohérent par rapport à l'ensemble de votre œuvre. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais à un point, vous pouvez pas savoir. Parce que je me souviens très bien quand j'ai mes premiers livres, par exemple. Rien dans ma vie ne me donnait le droit d'écrire des livres. Rien. J'étais dans une famille, il n'y avait pas de livres. Ça n'existait pas. Un écrivain, c'est pas ce que c'est. Et puis il y a toujours des gens pour dire, ouais, mais bon, c'est bien, mais pourquoi écrire des livres? C'est quoi des livres? Et puis c'est un écrivain, c'est le mec mort qui donne son nom à une rue, quoi. Vous voyez? Et donc il faut être d'une inconscience totale pour se lancer là-dedans. Je vous le dis à vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut être d'une inconscience totale. Et puis il faut quand même savoir que les gens ne veulent pas qu'on écrit. faut quand même savoir ça. On n'écrit pas contre les gens, mais on écrit malgré les gens. Parce que ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Je veux dire, la journée, un écrivain, il passe son temps à... Il va dans des cafés, il regarde les gens, il regarde, il voit quoi ? Il voit des chômeurs, les retraités, et puis des gens comme lui qui errent un peu dans la ville. Mais les vrais gens actifs, ils prennent le métro, ils ont des trucs à faire, quoi. Ce que disait Emmanuel Pagano ce matin et hier sur la question des marginaux, des gens en marge, les écrivains sont des gens en marge. Et c'est très bien comme ça, mais c'est extrêmement là où c'est difficile à vivre, c'est que à chaque livre, il faut rendre compte du droit à avoir écrit ce livre. Et puis de dire le prochain, il sera différent. Ah oui, mais quand même, il sera différent. Mais alors. Alors, il y a des gens qui aiment votre travail, qui vous soutiennent, qui vous défendent, etc., jusqu'au jour où vous faites le petit pas de côté, qui disent « Ah ouais, mais là, c'est moins bien, parce que ceci, parce que cela. » Ils ont peut-être raison, d'ailleurs. Mais sauf que pour vous, c'est pas la question. Moi, je m'en fous de qu'un livre soit mieux ou pas bien, ou moins bien qu'un autre. C'est pas ça, la question. C'est, moi, un jour, je suis entré dans un train. Je pensais qu'il y avait des stations que je pouvais descendre de temps en temps, sauf qu'on peut pas descendre. Et qu'en fait, ça va de plus en plus vite. Ça s'appelle l'écriture. C'est un truc de fou, vraiment. Mais vous ne pouvez que continuer. Non, mais c'est vrai, vraiment. Et donc, pour moi, c'est ça le problème. Et donc, il faut porter ce qu'on a fait, mais en même temps, il faut pas le supporter et il faut pas en devenir l'esclave. C'est-à-dire, il y a des gens qui, moi, vraiment, aujourd'hui, des fois, mais quand même, vous faites plus de monologues, etc. Mais plus vous me demanderez d'en faire, moins j'en ferai. Parce que c'est pas possible, ça. Vous voyez, ce rapport à l'écriture, c'est un rapport entre soi et soi. Pour moi, c'est la question de la liberté d'abord, quoi. Vraiment.
Pour en revenir à continuer, on avait remarqué, enfin, vous aviez dit dans une interview que vous aviez d'abord la fin en tête. Du coup, moi, ce que je me demandais par rapport à ce que vous avez dit précédemment, c'est est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça, c'est-à-dire d'avoir des scènes qui vont, à un moment donné, une rencontre d'idées qui va vous amener à écrire, ou est-ce que vous êtes plus terre-à-terre et ça fonctionne plus par des plans quand vous écrivez ?
Alors, ça dépend des livres. Dans le cas de continuer, par exemple, presque sur tous mes livres, à chaque fois, c'est divisé en parties très souvent. Et ça, j'ai besoin d'avoir quand même une sorte de plan de direction générale. Donc, j'ai besoin de ça. Dans le cas de continuer, c'est vrai, j'avais pas vraiment la fin en tant que scène, par exemple. Je savais pas ce qui allait se passer, mais je savais
la direction.
Non, c'était pas la direction. C'était j'allais dire le degré d'échauffement de l'émotion. Je sais pas comment dire ça, mais. Oui, c'est ça, c'est un petit peu comme une sorte de je sais pas comment raconter ça, c'est compliqué ça. C'est-à-dire que l'écriture d'un livre, ça vous emmène à un endroit, et il y a un moment, très souvent, la fin, elle arrive presque toute seule, de manière très... vous avez l'impression de surfer dessus, que les choses se trouvent comme ça, mais parce que c'est un roman, ça s'élabore sur des années, parfois, donc parfois des mois, parfois des années. Donc tout se met en place et à un moment, hop, tout trouve sa bonne place. Et là, j'avais à peu près, je me dis, ah, il faudrait que j'arrive à trouver cette sensation-là, cette émotion-là, cette densité-là. Je ressentais l'émotion de cette fin, je la ressentais complètement, mais je ne savais pas du tout de quoi elle était faite. Donc pour moi, la question, c'était comment je vais faire pour écrire un roman qui puisse m'emmener naturellement, entre guillemets, à cette émotion-là. Et en revanche, j'avais des éléments du début. Là, par contre, c'était des éléments très concrets, des images, c'est-à-dire Sibylle en peignoir chez elle en train d'attendre son fils, ou la route de Lacanau, la mer, plein d'images comme ça. Mais la question, c'était... Et puis avec ce truc des chevaux, et puis avec des images. Et après, la question, c'est comment je vais faire... Vous savez, comme quand on est gamin, les espèces de dessins avec les chiffres où on a juste les petits points comme ça, et vous reliez le truc comme ça, et pour avoir la figure à la fin. Et bien en fait, j'avais l'impression que c'était ça. Quelque chose, je dis, il faut que je relie comme ça tous ces points-là pour arriver à trouver quel est le dessin, quel est le livre. Et donc pour moi tout le travail était de vraiment de était de ouais de trouver la forme qui allait relier tout ça et comment j'allais pouvoir en passant d'un point à l'autre arriver à cette fin. J'avais une obsession, alors l'image est complètement nulle, hein, vous me pardonnerez, mais elle est parlante, je crois. C'est vous êtes devant votre casserole comme ça en train de faire chauffer votre eau, et puis tant que, si elle est à 95 degrés, bah, ça boue pas. Il faut être à 100 degrés pour que ça boue. Et pour moi, tout le truc du trajet du livre, c'est de dire il faut qu'à la fin, on soit à 100 degrés, il faut qu'il y ait ce petit miracle de l'ébullition et que quelque chose se puisse se retourner, que le moindre mot, le moindre petit geste qui pourrait paraître banal, page 52, d'un seul coup, vous explose au visage d'émotions, de sens, de justesse, simplement parce qu'il arrive à cet endroit-là et pas à un autre.
Et justement, cette recherche de tension-là, c'était vraiment pour continuer ? Ou ça définit toute votre écriture, enfin, ça se retrouve à chaque fois dans vos romans, parce que vous dites que vous adaptez la méthode.
Non, parce que il y a eu des livres. Dans les romans, j'ai écrit deux sortes de livres. Ceux qui seraient à direction comme ça linéaire, je pourrais dire apprendre à finir seul, ceux d'à côté je mettrais ailleurs. Des hommes et puis d'autres qui vont vers un endroit, qui vont vers un point comme ça à la fin où l'émotion, même si on fait plein de détours dans le temps, par exemple dans Des hommes on peut faire plein de détours, mais finalement on arrive à cet homme dans sa voiture, cet homme après la nuit, cet homme comme ça qui et d'autres romans qui fonctionnent à l'horizontale, comme Loin d'eux, comme Autour du monde, comme Dans la foule, où on a plusieurs points de vue, des choses plus éclatées, où là, il ne s'agit pas d'aller forcément vers quelque chose de précis à la fin, mais au contraire, de tourner de manière plus à la fois polyphonique, mais aussi plus horizontale, dans plusieurs directions. Donc là, par exemple, ça ne marche pas pour ça. Oui. Pour ces romans-là, il n'y a pas du tout la recherche d'un truc qui vous prendrait à la fin, par exemple. Une tension comme ça. La tension se dissout sur, pour le coup, avec une forme plus circulaire, plus multiple. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux d'écriture. Mais j'aime les deux. Et ce que j'aime de plus en plus, alors ça serait pour moi l'idée d'aller essayer de mêler un petit peu ces deux tendances-là, de trouver une forme qui serait capable de faire ça, quoi.
Et du coup... Pardon, excusez-moi. Dans le cadre d'une...
On va être à court de temps. Enfin, je suis vraiment désolée. On doit vous laisser du temps pour pouvoir lire. Vraiment désolée. Peut-être juste une toute petite dernière question pour conclure, mais très très rapidement. Hier, on avait David Bosque qui avait une extrêmement belle formule pour parler de l'émotion et du rapport au beau, qui disait qu'il se plaçait dans le camp des défenseurs par rapport à des personnes qui seraient dans un cynisme plus facile peut-être, et dans quelque chose d'ambiant qui serait plus noir, dans une noirceur plus facile, peut-être plus ambiante. Et je trouve que ce camp du défenseur est peut-être quelque chose au niveau de l'émotion que vous défendez aussi dans votre littérature. Donc juste peut-être un dernier petit mot là-dessus pour conclure.
C'est marrant parce que moi j'ai tendance à dire qu'il y a deux types d'écrivains, mais de lecteurs peut-être aussi. Il y a les procureurs et les avocats. Et évidemment, il s'agit de faire partie des avocats, ça c'est sûr.
Voilà. Merci.
Ça c'est sûr.
Alors donc, Laurent Mauvignier va vous laisser sur une lecture, va poursuivre, continuer, sur une lecture de continuer.
Je vais essayer quelque chose, je ne sais pas combien de temps ça dure. Alors, a priori, on me dit 10 minutes, un quart d'heure, mais j'en sais rien en fait. Donc peut-être c'est un peu moins, peut-être c'est un peu plus, je ne sais pas. L'aventure continue. Ce matin, Samuel ne parle pas de comment il a été agacé par les deux hommes la veille au soir. Comment il a été surtout irrité par son comportement à elle, comment il n'a pas aimé voir sa mère en train de jouer le jeu de la séduction. Samuel se sent de mauvaise humeur, elle le voit tout de suite. Depuis qu'ils sont partis, la seule fois où il avait été vraiment insupportable, ça avait duré 3 jours, c'était après l'attaque des types et la soirée chez Bektash et Jamila. Il avait été furieux de se sentir en danger, de se sentir démuni, vulnérable, de voir que sa mère avait sympathisé et ri avec Jamila, comme si à chaque fois que sa mère avait un moment où elle pouvait ne pas être uniquement sa mère, il devenait furieux. Pourtant, il va beaucoup mieux. Elle le sent. Il va mieux. C'est-à-dire, lentement, doucement, les choses apparaissent. Il revient vers la vie. Ou plutôt, il commence, pas à pas, à accepter de prendre le temps de regarder autour de lui. C'est comme si tout à coup, il découvrait qu'un monde existe qui n'est pas lui, dont il n'est pas le centre. Mais il se réfugie encore beaucoup derrière ses écouteurs. Il partage assez peu de choses avec sa mère. Ils vivent sans vraiment se parler, l'un à côté de l'autre, mais sans hostilité, sans l'animosité qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre à Bordeaux quelques semaines encore auparavant. Tout est fragile, tout peut échouer, et Sybille ne comprend pas pourquoi, ce matin, elle sent un regard si hostile, si violent, comme si dans son dos elle ressentait cette haine que Samuel semble projeter sur elle. « Mais non, se dit-elle, j'ai mal dormi, c'est seulement une idée que je me fais. » Comme tous les matins, Samuel commence sa journée en tentant de rassurer les chevaux, en leur parlant à l'oreille, en leur expliquant qu'il va devoir leur poser le tapis de bas sur le dos, la selle, les sacoches, la sous-ventrière. C'est délicat, et il a senti chez les chevaux une forme d'excitation, d'agacement, d'inquiétude peut-être. Mais il finit par se dire que c'est peut-être seulement lui qui projette sur eux son état mental, ou eux, alors, qui entrent en résonance avec ce qu'ils dégagent, ce que sa mère ressent aussi au moment de partir, lorsqu'elle lui demande « Ça va ? Tu es sûr ?»« Oui, ça va. » Alors, ils partent et grimpent pendant une bonne heure un versant assez abrupt. Autour, il n'y a bientôt plus que des glaciers. On doit être au moins à 4000 mètres. Il fait vraiment froid. Ils sont bien couverts, bonnets et cache-col, comme en hiver. Autour d'eux, des plaques de glace apparaissent, des fragments éparpillés qui projettent des morceaux d'un ciel bleu et dur comme le verre, comme si des mini-lacs d'atoll venaient crever la montagne et surgissaient de nulle part. De grands oiseaux, milans, aigles, faucons, volent trop loin pour qu'on puisse les identifier. Des animaux, mais surtout l'impression d'un monde minéral où la végétation semble comme écrasée. Et ils avancent. Sybille explique qu'ils redescendront de l'autre côté du plateau. C'est un plateau qui doit faire une bonne dizaine de kilomètres, très à plat. On y trouvera normalement un peu d'eau et du pâturage. On pourra s'arrêter un peu ou continuer si on a trop froid et redescendre de l'autre côté pour reprendre des chemins plus balisés, trouver des campements, des nomades ou des villages, peut-être même une ville un peu plus grande, on verra. Ils avancent sur cette vaste esplanade herbeuse ponctuée de blocs de glace. Et ils tombent dans le piège facilement, sans se rendre compte qu'ils se referment sur eux et qu'ils ne pourront pas faire marche arrière. Les glaciers qui les surplombent forment comme des murailles blanches aux reflets métalliques, bleus, gris. Et s'ils entendent des écoulements, des ruissellements, Sybille et Samuel pensent seulement à la rivière qu'ils ont croisée et qu'ils ont réussi à traverser sans trop de difficultés, à gué, sur des cailloux. Une rivière dont le débit était pourtant rapide, tumultueux, mais peut-être pas assez féroce pour qu'ils y prennent garde et se disent qu'il est le signe d'un autre danger. Car en avançant entre les murailles de glace, en écoutant l'eau qui ruisselle de chaque côté, ils comprennent que la rivière est gonflée par la fonte des glaces, qu'elle se nourrit de l'effondrement de la glace, de son émiettement. Au départ, l'eau s'infiltre dans la terre trop sèche qui d'abord n'absorbe rien et forme un fond à l'accumulation de l'eau. Et puis lentement, doucement, l'eau s'infiltre, s'imbibe, le sol devient mou, herbe, cailloux, terre, un limon spongieux qui enfle et se transforme lentement, se nourrissant, se gonflant, se colorant jusqu'à ce qu'un marécage s'étende, tentaculaire et profond, engloutissant dans son fond de vase tout ce qui veut l'emprunter. Ça se fait lentement, en quelques jours, peut-être en quelques semaines. Mais pour eux, maintenant, il est déjà trop tard. Ils ont trop avancé lorsqu'ils comprennent que cette esplanade qu'ils croyaient froide mais paisible s'ouvre sur un sol imbibé d'eau. Et c'est au moment où l'eau arrive aux genoux des chevaux que Sybille s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. L'eau arrive aux genoux des chevaux, mais à la regarder, elle ne devrait pas. Elle devrait arriver un peu au-delà du sabot. Ça veut dire qu'on... Est-ce qu'on peut envisager un repli, repartir, rebrousser chemin ? Elle essaie de faire demi-tour à son cheval, mais l'effort de ce demi-tour lui arrache un hennissement si puissant et douloureux qu'il se braque et revient dans sa première position. « Non, Il ne peut pas se retourner, soulever un sabot, une jambe, l'autre, tout son corps, son poids et celui de Sibylle et les sacoches pleines, le sac roulé derrière, c'est impossible. Sibylle caresse l'encolure de son cheval. Elle se penche sur lui pour le rassurer. Oui, le calmer, il faut le calmer. Sibylle sent qu'il a peur, que la panique le guette. Mais en levant les yeux, elle voit d'abord le visage blême de Samuel qui s'est arrêté à son tour et l'interroge d'un mouvement de tête comme s'il disait « Qu'est-ce qui se passe? On est où? Qu'est-ce qui est en train d'arriver ?» Comme s'il avait besoin de sa confirmation ou qu'elle lui dise « Mais tu ne le vois pas ce qui se passe? Tu ne vois donc jamais rien, Samuel ?» Sibylle comprend que faire du surplace, c'est s'embourber. La boue est le danger. Non, il faut continuer. Il faut aller plus vite, le plus vite possible. Samuel qui réagit « Maman, maman, putain, on s'enfonce, on s'enfonce !» Et tous les deux se mettent à crier et à claquer leurs talons dans les flancs des chevaux. Ils éperonnent de toute leur force. Ils crient, s'agitent. Les chevaux alors se lancent pour s'arracher à cette mélasse qui les avale, pour se hisser. Et ils bondissent et déploient toute leur puissance, leur énergie, les muscles saillants, les muscles bandés, le corps tendu. Mais ils avancent par à-coups, presque rien, des sauts de puce, des bonds brisés à peine lancés. Et pourtant, ils continuent et ensemble on s'agite. On gueule, les chevaux aux yeux exorbités par la peur. Ils se lancent et gagnent, grignotent 20, 30, 50 centimètres, et puis dans un effort immense retombent dans l'immobilité qui voudrait les prendre. Les flaques de boue noirâtres sous la verdure, plus d'herbe du tout, plus de pierre du tout, seulement autour d'eux, qui semblent les regarder et les condamner, prêtes à se replier sur ce dôme qui devait les aider à aller plus vite vers Hoche, des falaises et des crêtes, comme une gouttière en zinc, qui les condamne à continuer pour sortir de ce tunnel. Les chevaux hennissent et s'enfoncent jusqu'au bas de l'encolure, les chaussures et les bas de pantalon saisis par cette matière visqueuse et froide, et la peur qui monte avec ce bruit horrible, ce glougloutement qui avale tout et régurgite comme un organisme au travail. On crie, les bêtes avancent, on va tenir, il faut tenir. Une heure passe et puis une deuxième, on avance trop lentement. Est-ce que les chevaux auront la force? Il fait froid et pourtant, chevaux et humains transpirent et la chaleur brûle. On était glacés il y a encore si peu. Et maintenant les chevaux transpirent eux aussi et les éclats de boue volent à chacun de leurs sauts quand ils retombent et pataugent, effarés, stupéfaits, les sacoches qui prennent l'eau, les plaques gluantes, noires, des paquets de boue collés sur les visages, les mains, les doigts poisseux, les crins des chevaux et le corps en entier, les vêtements constellés de taches, des relents de corps putrides, l'effort encore, l'effort jusqu'au bout, 4 heures à alterner les moments de combat et les relâchements. On reprend souffle et on repart, les jambes tremblantes, les chevaux qui s'enfoncent ou glissent. Et enfin, plus loin, là-bas, à une dizaine de mètres, oui, un talus nous attend qui avance vers nous, vers le marais. Si on y arrive, et il faut qu'on y arrive, il le faut, on se le dit pour soi-même, parce qu'on n'a plus la force du moindre mot, juste des sons pour cracher aux chevaux l'ordre de continuer. Mais pour le reste, les sons ne sont que des cris qu'on expulse. On va y arriver, oui, un talus assez vaste pour nous accueillir. Et déjà, on regarde avec envie les pierres pointues et osseuses, trop saillantes. On rêve de s'esquinter les pieds sur la terre ferme. Mais l'espoir que le talus a créé suscite d'autres obstacles, d'autres paris. Il faut l'atteindre pour contourner la cuvette si l'on veut pouvoir rejoindre l'autre versant de la montagne et espérer redescendre par ce côté. Il faut compter 2 heures pour y parvenir. C'est-à-dire pour seulement réussir à monter sur le bord de ce talus qui semble s'enfoncer au fur et à mesure qu'on en approche. L'agacement, la fatigue, les chevaux épuisés, et celui de Sibylle, tout à coup, qui refuse d'avancer. Soudain, il ne bouge plus. Il respire très fort. Ses yeux fixent la boue qui monte encore. Sibylle s'arrête quelques secondes. Elle aussi respire très fort. Elle essaie de ne pas bouger. Elle lui caresse l'encolure. Ça va aller. Il faut qu'on avance. Il faut que tu y arrives, d'accord? On y est presque, on y est, oui. Et elle lui parle comme s'il était humain. Comme s'il avait besoin d'abord d'être réconforté et consolé d'un malheur trop grand pour lui. C'est comme si Sidious ne l'entendait pas. Alors le poids du cheval, de Sibylle, du bas, des sacoches, lentement mais inexorablement, tout s'enfonce. Le corps bascule, mais pas partout de la même manière, non, lentement, irrémédiablement, comme une plongée au ralenti. Il glisse sans s'en rendre compte vers l'arrière, mais aussi vers le côté droit, car ça non plus n'est pas symétrique. Ni le devant avec le derrière, ni le côté droit avec le gauche. Samuel s'en rend compte et crie pour prévenir Sibylle. Elle ne peut rien faire. Alors Samuel frappe son cheval pour qu'il avance et se place à côté de Sidious comme pour lui servir d'appui, comme un été. Et bientôt on y est, voilà, Samuel prend une des sacoches pour libérer Sibylle et alléger le poids sur son cheval. Il passe devant et tire le licou. Sidious repart et arrive, tremblant, effrayé, jusqu'au talus qu'il faut longer tout de suite, sans attendre. Et alors, pour faire le tour de la cuvette, il faudra traverser un bras d'eau. Mais cette fois, ce bras est vif, l'eau est claire, limpide. Elle roule sur un lit de cailloux qu'on peut apercevoir, parfaitement arrimé au sol. On y va. On fait quelques mètres, et puis il faut s'enfoncer et ressortir peut-être une bonne centaine de mètres plus loin. Ils sont en train de s'en sortir, et la peur et la joie se libèrent dans une émotion qu'ils ne reconnaissent pas, l'envie de courir, de galoper. Il faudrait aller plus vite, et décident de descendre pour retrouver un endroit plus chaud. Il doit être autour de 15 heures. Alors oui, sur ce versant, il doit y avoir des plateaux, le soleil frappe à traits redoublés. Ils s'imaginent déjà en train de se réchauffer à ses rayons, pourvu qu'un tel endroit où l'on pourra se reposer, se réconforter, pourvu qu'il existe. Mais pour l'instant, il faut encore travailler à descendre, ne pas glisser sur l'herbe mouillée et la terre qui semble parfois instable. Des flaques d'eau leur rappellent qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Face à eux, sur l'autre rive, un glacier. Son mur de glace et d'apic surplombant leur versant et cette montagne qui semble ridicule face à lui. Et puis ils dévient, descendent, le glacier s'écarte pour les laisser passer. Ils vont marcher comme ça à côté des chevaux pendant encore une heure, avant de s'arrêter. Le soleil frappe encore généreusement le petit replat qui s'offre à eux. On décharge les bêtes, les mains sales, puantes. Pour l'instant, il faut tout sortir, tout étendre. Et puis là-bas, juste un ruisseau. Alors ils vident tout. Les sacoches, les tentes, les sacs de couchage, les fringues, en se disant que le soleil devrait sécher le tout assez rapidement, même si la puanteur de la boue est la plus forte, qu'elle restera collée aux vêtements, aux objets, aux outils, pendant des jours. Mais surtout, chacun se dépêche de regarder ce qui compte le plus pour lui. Pour Samuel, c'est de vérifier que son smartphone va bien, oui, que sa tablette et sa recharge vont bien, oui, que son vieux baladeur va bien, oui, que ses disques vont bien, oui, que son lot de piles aussi va bien, oui. Il dépose chaque pile debout les unes à côté des autres sur une pierre plate. Il fait l'inventaire de tout ce dont il a besoin. Il imagine s'il avait perdu son smartphone, sa tablette, sa musique, quelque chose de lui-même. Sibylle saisit l'enveloppe de feutre qui est trempée, mais à l'intérieur, le pistolet de Jamila n'a rien. Les cartouches qui sont dans l'arme non plus, mais la boîte avec les quelques munitions est mouillée. Sibylle pourrait sauver les balles en retirant la poudre comme elle l'avait vu faire des dizaines de fois dans des vieux westerns. Non, elle les jettera. Les quelques cartouches qui restent dans le pistolet, de toute façon, ce sera bien suffisant. Mais ce qui compte le plus pour Sibylle, c'est ce cahier noir dans lequel chaque jour elle consigne tant de choses. Ce cahier qui reste intact, comme miraculé. Elle le feuillette, passe d'une page à l'autre. Son écriture est là. Elle la reconnaît comme elle l'a tracé les mêmes mots rapides, les mêmes lettres obstinément penchées, comme si elles étaient en train de foncer vers une destination inconnue à toute vitesse ou qu'elles résistaient à un vent furieux. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent. Il faut continuer. Et merci beaucoup à vous pour ce bon moment de littérature.